Essentiel. Bien plus que de la radio.
Essentiel Académie. Julie et Mag.
Salut à tous, Julie au micro d'Essentiel Académie en compagnie de Coach Mag. Salut Julie, salut les auditeurs, vous nous écoutez sur essentielradio.com ou sur notre appli. Bienvenue sur Essentiel. Ce vendredi 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes. Une journée qui s'inscrit dans un contexte de libération de la parole sans précédent et qui nous a donné envie de faire connaître le parcours singulier de femmes particulièrement inspirantes. 5 femmes peu connues qui, face à la ségrégation, l'oppression et la discrimination, face au handicap et à la souffrance, ont su apporter une réponse non conventionnelle, grande et inspirante. C'est maintenant dans Essentiel Académie.
Selon vous, quels sont les traits de caractère que toutes les grandes femmes de l'histoire ont manifestés pour tenir bon face aux difficultés? On vous a posé la question, on écoute vos réponses.
Alors je pense qu'elles ont fait preuve d'abnégation.
Moi, ce serait la force, le courage, l'ambition et la résignation.
L'engagement, les convictions, le courage, la force, la persévérance.
Patente, courage.
Le courage, être visionnaire, être bien en compréhension de son époque.
Le courage et l'ambition pendant le début du XXe siècle, le droit de vote par exemple.
C'est la détermination et la confiance en soi, la volonté de se dépasser et la persévérance.
Merci à tous pour vos réponses. On commence coach avec une grande figure de la littérature, femme talentueuse et précurseur à bien des égards, Phyllis Wheatley, l'esclave devenue poète.
Oui, première poétesse noire et première africaine publiée en Europe. Inconnue en France, mais aux États-Unis, véritable icône des droits civiques au même titre que Rosa Parks ou Martin Luther King, l'histoire de Phyllis Wheatley est juste incroyable. On est en 1761, une petite fille de 8 ans environ est arrachée à sa famille en Afrique et embarquée de force sur un bateau d'esclaves en direction de l'Amérique. Après une traversée effroyable, affaiblie par le voyage, la voilà sur le port de Boston, dans un monde où rien ne lui est familier. C'est alors qu'un riche marchand de la ville et sa femme, John et Susanna Wheatley, l'achètent et la prénomment Phyllis, du nom du bateau qu'il a transporté. Chez ses maîtres, Phyllis doit s'occuper des tâches domestiques, mais très vite, ces derniers réalisent qu'elle est brillante et lui permettent d'étudier. Rapidement, la jeune fille apprend à lire et à écrire. À l'âge de 12 ans, elle lit des textes en grec et en latin. Elle étudie la Bible et écrit ses propres poèmes. Son talent est indéniable et les Wheatley l'encouragent à le développer, la délestant peu à peu des tâches ménagères pour lui permettre de se consacrer à la poésie. Phyllis publie un premier article dans un journal local et caresse le rêve de devenir écrivaine. Mais au XVIIIe siècle, sa couleur de peau est un obstacle pour atteindre son objectif. À l'époque, on ne pense pas les Noirs capables de produire de la littérature. On les juge barbares et incultes. Considérée comme une usurpatrice, Phyllis va devoir prouver qu'elle est bien l'auteur de ses propres écrits. Elle comparaît devant une assemblée de 18 hommes haut placés et parvient finalement à les convaincre. En 1778, Phyllis retrouve la liberté à la mort de John Wheatley qui l'a franchi dans son testament. En pleine guerre d'indépendance, la jeune femme montre dans ses poèmes qu'elle comprend la soif de liberté des colons américains, mais elle dénonce aussi leur hypocrisie. Ils aspirent à la justice pour tous, mais en même temps retiennent des Africains en esclavage. Parmi ses écrits les plus célèbres, on compte le poème rédigé à l'intention de George Washington. Impressionné, le président lui enverra une lettre de remerciement. Alors qu'elle n'est âgée que d'une trentaine d'années, Phyllis meurt de complications lors de la naissance de son troisième enfant. Après sa mort, ses poèmes sont redécouverts et font changer d'avis bon nombre de lecteurs sur la question de l'esclavage. Toujours imprégné de sa foi en Dieu, ses écrits rappellent que pour Phyllis, une plus grande liberté surpassait toutes les autres, celle qu'elle avait trouvée en Jésus, le plus grand cadeau que Dieu peut donner, sauveur de tous, comme elle l'écrivait.
Essentiel Académie, Julie et Mag.
Mag, on poursuit avec sans doute la plus grande auteure-compositrice de son temps, même si son nom, j'en suis sûre, ne va pas vous dire grand-chose, c'est Fanny Crosby.
Oui, Julie, on l'a surnommée la reine des auteurs de chants gospel et pour cause, puisqu'elle a écrit pas moins de 8000 hymnes, dont le célèbre Blessed Assurance.
Blessed Assurance, Jesus is my.
Ainsi que les paroles de cantiques encore chantées aujourd'hui dans les églises. « Sur toi, je me repose, ô Jésus, mon Sauveur » ou encore « À Dieu soit la gloire ».
Lord,
Tout commence le 24 mars 1820. Frances, alias Fanny, vient tout juste de naître dans un petit village de l'État de New York. Malheureusement atteinte de cécité, Fanny se révèle pourtant être une petite fille curieuse et pleine de vie. Elle grimpe aux arbres, escalade les murets et joue dehors avec les autres enfants. Au fil des années, la fillette développe un goût pour la musique, la littérature et la poésie. Sa grand-mère lui lit Shakespeare, Cervantes et aussi la Bible, dont Fanny mémorise plusieurs passages. Toujours assoiffée d'apprendre, la jeune fille veut aller à l'école, mais son handicap l'en empêche. Alors elle prie spécialement pour cela et finalement, à l'âge de 15 ans, son désir est exaucé. Elle obtient une place à l'Institut pour aveugles de New York. Là-bas, son amour pour la poésie continue de grandir. Fanny possède un tel don qu'elle publie plusieurs recueils de poèmes et devient enseignante à l'Institut.
On est d'accord, Mag, jusque-là, Fanny Crosby n'a pas encore composé de chants chrétiens.
Oui, car c'est dans sa jeunesse, la jeune artiste a eu l'habitude d'aller à l'église. Elle est désormais plus préoccupée par son travail que par Dieu. C'est seulement à l'âge de 29 ans que les choses changent, lorsqu'une épidémie de choléra décime bon nombre de New-Yorkais, dont des résidents de l'Institut. Dans un rêve, elle voit l'un de ses amis sur le point de mourir qui lui demande s'ils se retrouveront au ciel. À son réveil, cette question ne va pas cesser de la travailler et elle revient à l'église. Quelques temps plus tard, Fanny réalise qu'elle ne peut pas tenir le monde d'une main et Jésus de l'autre, comme elle l'explique avec ses propres mots, et elle décide de confier toute sa vie à Jésus. Fanny va alors décider de mettre à profit son don pour composer des cantiques. Sachant jouer non seulement du piano, mais aussi de la guitare, de la harpe et de l'orgue, elle met tout naturellement ses paroles en musique. Impossible de ne pas citer sa plus célèbre composition, Blessed Assurance, ce qui donne en français
« J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. »
150 ans plus tard, ce cantique est toujours chanté avec conviction par toutes celles et ceux qui, comme Fanny, ont expérimenté la paix du cœur.
Parfait repos et parfait bonheur en toi, mon sauveur, j'ai la paix du cœur.
C'est peut-être aussi votre histoire, mais n'oubliez pas que d'abord, ce fut celle de Fanny Crosby.
C'est mon histoire, c'est là mon chant.
Autre époque, autre lieu, Mag, direction la Corée pour rencontrer une autre femme, grande figure de la résistance politique et spirituelle, Anne Suk, que l'on connaît parfois mieux sous le nom d'Esther Han Kim.
Oui, pour se remettre dans le contexte, à la toute fin du 19e siècle, le Japon est engagé dans un conflit sans merci avec la Chine. Pour mener à bien cette guerre, l'Empire nippon envahit la Corée. C'est dans cette Corée sous occupation japonaise que naît Han Hee-suk en 1908. À cette époque, pas d'autre choix pour les Coréens que d'apprendre le japonais, de se plier aux coutumes nippones et d'adopter le shintoïsme comme religion. Si la famille paternelle d'Hee-suk s'y conforme, sa mère en revanche conserve sa foi chrétienne. Très jeune, Hee-suk fait son choix et décide elle aussi de croire en Jésus. C'est en 1939 que le quotidien d'Hee-suk va basculer. Devenue enseignante dans une école chrétienne, la voilà confrontée à nouveau à un choix crucial. On impose en effet à tous les étudiants et professeurs de se rassembler dans un temple shinto pour vénérer la déesse du soleil. Sous les yeux des autorités japonaises, tout le monde s'incline, tous sauf Hee-suk. La jeune femme sait qu'elle risque d'être arrêtée et torturée, alors elle fuit et vit pendant quelques temps dans la clandestinité. Sachant qu'elle risque l'emprisonnement et qu'elle ne pourra pas garder sa Bible avec elle, elle apprend par cœur plus d'une centaine de chapitres de la Bible et de nombreux cantiques. Mais ce n'est pas tout. Convaincue qu'elle doit parler aux autorités nippones, elle ose se rendre au Japon malgré la menace qui pèse sur elle. Devant la diète impériale, elle demande le retrait des troupes japonaises et témoigne de sa foi chrétienne. Arrêtée, Hee-suk va être emprisonnée pendant 6 ans. Au milieu de la faim, du froid et de la torture, Hee-suk prie pour que Dieu fortifie sa foi et l'aide à tenir bon. En prison, elle partage l'évangile autour d'elle et vient en aide aux autres détenus. Touchée par l'amour qu'elle leur témoigne, plusieurs acceptent Jésus comme sauveur et même des gardiennes se convertissent. Son histoire, elle la racontera une fois libérée dans un livre qui va rapidement devenir le livre religieux le plus vendu de tous les temps en Corée, avant de devenir aussi un best-seller au Japon. Impressionnante par son courage et sa détermination, Han Hee-suk témoignera jusqu'à la fin de sa vie qu'elle puisait sa force en Dieu. Par sa vie sans compromis, elle a inspiré des milliers de personnes à rester fermes dans leur foi chrétienne.
Essentiel Académie, Julie et Mag.
Mag, son nom de famille est très connu, mais son prénom un peu moins. Il s'agit de Betsy Ten Boom.
Oui, Julie, si on connaît surtout Cory, on a tendance à oublier le rôle important qu'a joué sa grande sœur, Betsy. Née en 1885 dans une famille chrétienne de Hollande, c'est la plus âgée de la fratrie Ten Boom. Souffrant d'anémie, Betsy manque de force et se fatigue très vite chaque jour. Pour autant, c'est une jeune fille active qui s'investit dans toutes les tâches quotidiennes. À l'âge adulte, elle trouve sa place dans l'horlogerie familiale et aide son père Casper dans la comptabilité. En 1940, l'Allemagne envahit la Hollande. Rapidement, toute la famille s'implique dans la résistance et prend de grands risques en cachant des Juifs. En avril 1944, suite à une dénonciation, les Ten Boom sont arrêtés par la Gestapo. Casper meurt 10 jours plus tard. Cory et sa sœur Betsy sont quant à elles déportées en Allemagne, à Ravensbrück. Dans ce camp de concentration, il ne s'agit plus de vivre, mais de survivre. Cheveux rasés, humiliation quotidienne, travail harassant et conditions d'hygiène épouvantables. Les détenus dorment à 5 par matelas. Les baraquements sont infestés de puces. Malgré les souffrances, la foi de Cory et Betsy va leur permettre de tenir bon. Les deux sœurs organisent clandestinement des temps de prière et de lecture de la Bible. Elles encouragent les plus faibles, soignent les malades, témoignent de leur foi. Betsy, qui souffre pourtant toujours de son anémie, distribue ses gouttes de vitamines aux prisonnières qui en ont besoin. Au milieu de la barbarie humaine, Betsy pense même à lister des sujets de reconnaissance. Le fait qu'elles aient pu rester ensemble avec sa sœur, qu'elles aient une Bible, qu'elles puissent parler de l'amour de Jésus. Résolument tournée vers les autres, Betsy envisage de créer après la guerre une maison pour accueillir toutes les personnes ayant connu les camps de concentration. Mais elle pense aussi aux surveillants et à tous ceux qui se montrent cruels envers les prisonniers. Elle aimerait qu'ils puissent, eux aussi, recevoir de l'aide et connaître l'amour de Dieu, cet amour plus fort que la haine. Le 16 décembre 1944, terriblement affaiblie, Betsy meurt à l'âge de 59 ans. 15 jours plus tard, sa sœur Cory est libérée et c'est elle qui va témoigner par la suite de la présence de Dieu dans l'enfer des camps. Lors de conférences ou dans ses livres, Cory n'aura de cesse de rappeler les paroles de sa sœur Betsy. « Nous devons dire aux gens ce que nous avons appris ici. » Nous devons leur dire que Dieu est plus grand que le plus profond des abîmes.
Justement, Mag, on termine avec une femme qui, elle aussi, a démontré l'amour de Jésus, Elizabeth Elliot.
Oui, née en 1926, Elizabeth, fille de missionnaire, grandit aux États-Unis et étudie le grec. Très tôt, elle se destine, elle aussi, à la mission et à la traduction de la Bible dans d'autres langues. Une fois ses études finies, c'est en Équateur qu'Elizabeth se rend avec son mari, Jim Elliot, et 4 autres couples pour faire connaître l'évangile à la tribu Quichua. En 1955, après plusieurs années au service des peuples autochtones, les missionnaires ont le désir de parler de Jésus aux Waorani, une tribu vivant en pleine jungle. Mais les Waorani ont une terrible réputation de violence et de cruauté. Aucun étranger n'est encore parvenu à entrer en contact avec eux sans perdre la vie. Jim et son équipe sont pourtant déterminés à les rencontrer. Après avoir localisé les Waorani et leur avoir offert quelques présents, ils dressent un campement non loin de leur village et parviennent à passer quelques heures avec 3 d'entre eux. Ces derniers reviennent 2 jours plus tard avec d'autres membres de la tribu, mais il ne s'agit malheureusement pas d'une rencontre amicale. Les 5 missionnaires sont immédiatement attaqués et tués. Lorsqu'Elizabeth apprend la mort de son mari, elle vit un moment terrible et pourtant elle va faire cette prière. Dieu, si tu veux que je fasse quelque chose pour les Waorani, je suis à ta disposition. Cela peut sembler fou comme ça, mais Elizabeth est déterminée à aller jusqu'au bout de sa mission. Et c'est ainsi que quelques temps plus tard, elle parvient à nouer des liens avec 2 femmes Waorani qui ont quitté leur tribu. Elles vont vivre ensemble jusqu'au jour où ces dernières décident de retourner dans leur village en invitant Elizabeth à les accompagner. Elizabeth connaît les risques, être tuée à son tour, mais alors qu'elle prend le temps de prier, elle reçoit la conviction qu'elle doit y aller et qu'aucun danger, aussi grand soit-il, ne doit l'empêcher d'obéir à Dieu. En 1958, Elizabeth et sa fille partent donc pour vivre en territoire Waorani. Débute alors la lente tâche d'apprendre à communiquer avec cette tribu pour mieux la comprendre. Munie de son magnétophone et de ses fiches, Elizabeth prend constamment des notes. Peu à peu, elle parvient à établir une relation forte avec les membres de la tribu. Elle leur parle de l'amour de Jésus et de la force du pardon. Par la suite, la Bible va être traduite en langue Waorani et une grande partie de la tribu va se convertir à Jésus. Alors certes, le choix d'Elizabeth Elliot de vivre au milieu des assassins de son mari aura été très critiqué et il est vrai que les risques étaient réels. Mais ce que beaucoup n'avaient pas compris, c'est que c'est cette démonstration d'amour qui a permis à tout un peuple de connaître l'Évangile. Leur besoin de Christ n'est pas plus grand que le mien, a-t-elle dit. Nous sommes tous des brebis égarées qui suivent leur propre chemin. Si je connais le berger et si je sais comment le trouver, alors je dois tout faire pour que les autres brebis le connaissent, elles aussi.
Merci coach pour ces témoignages inspirants. Pour résumer cette émission spéciale, on retient 5 grands parcours. 1. Celui de la talentueuse Phyllis Wheatley, l'esclave devenue première poétesse afro-américaine à être publiée. 2. Celui de la prolifique Fanny Crosby, auteure et compositrice de plus de 8000 hymnes. 3. Celui de l'inflexible Esther Ann Kim, qui a mémorisé plus de 100 chapitres de la Bible pour se préparer à sa détention. 4. Celui de la courageuse Betsy Ten Boom, déportée et morte à Ravensbrück pour avoir caché des juifs. Enfin 5. Celui de la remarquable Elizabeth Elliot, qui va aller vivre parmi les assassins de son mari afin de leur parler du grand amour de Jésus. Merci à tous d'avoir été au rendez-vous. Comme d'hab, vous allez pouvoir réécouter Essentiel Académie en podcast d'ici quelques minutes sur essentielradio.com, Spotify, Deezer ou notre appli mobile. On se quitte pour mieux se retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, X, Instagram, mais aussi TikTok.
La semaine prochaine, c'est le journal du gospel avec Sam et Annette. Et nous, on se retrouve dans 15 jours pour parler de ce mal qui nous guette tous, la procrastination.
D'ailleurs, est-ce que vous êtes plutôt team on verra ça demain, ou ce qui est fait n'est plus à faire? Dites-nous tout sur les réseaux sociaux ou sur WhatsApp 07 87 250 777. D'ici là, prenez soin de vous.
Salut,
bye bye.
On retrouve tous nos programmes sur essentielradio.com.